Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. Et en ce jour-là, Jésus, étant sorti de la maison, s'assit près de la mer, et de grandes foules étaient rassemblées auprès de lui, de sorte que, montant dans une nacelle, il s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles, disant, « Voici un semeur sorti pour semer. » Et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Et aussitôt ils levèrent, parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde. Et, le soleil s'étant levé, ils furent brûlés. Et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils séchèrent. Et d'autres tombèrent entre les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. Et d'autres tombèrent sur une bonne terre et produisirent du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
En dehors des évangiles, on ne trouve que deux fois l'équivalent de ce mot parabole, c'est-à-dire figure, dans l'épître aux Hébreux. Seigneur est donc seul à nous proposer cet enseignement par les paraboles, enseignement simple, concret et parfait. Le Seigneur emploie les choses courantes de la vie, dans tout ce qui tombait sous les sens pour ceux qui l'entendaient, rien de difficile dans l'énoncé de la parabole, elle est très simple, elle est très courte, et elle se retient aisément. Elle se fixe facilement dans la mémoire. Mais pour la saisir, pour en saisir le sens caché, il faut que le Seigneur l'explique à ses disciples en particulier. Bien que la figure soit générale et ne présente aucune difficulté, la parabole a donc ceci de particulier qu'elle a un sens caché qui ne peut être saisi par l'intelligence. Il faut que ce soit le Seigneur qui révèle le secret caché dans cette parabole. Le Seigneur procède donc par similitude, se sert d'un fait, d'une circonstance que chacun peut connaître facilement, et alors il va en tirer un enseignement par voie de comparaison, l'exposant en détail à ses disciples. Il la confie aux siens seulement. Les autres, nous en verrons le pourquoi tout à l'heure, les autres auditeurs ne peuvent pas saisir ce que le Seigneur enseigne à ses disciples à travers cette parabole. La similitude, elle, est une analogie beaucoup plus brève, complète en elle-même, et elle comporte, elle, sa propre signification. Il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de caché dans la similitude. On peut citer comme exemple de similitude ce que le Seigneur enseigne à l'égard de quelqu'un qui a reçu la parole et qui ne la met pas en pratique. Il est semblable à un homme, dit-il, qui a bâti sa maison sur le sable. Rien de difficile, mais nous comprenons bien qu'une maison bâtie sur le sable n'a aucune possibilité de faire face à toutes les intempéries. Le Seigneur parle aussi, par similitude, des hommes qui attendent leur maître et auxquels nous devons ressembler. C'est une similitude, un homme qui attend son maître, rien de difficile. Le Seigneur parle aussi dans l'Évangile selon Jean d'une similitude en relation avec la femme qui enfante dans la tristesse, dans les douleurs, et elle se réjouit ensuite de ce qu'un homme est né dans le monde. Le Seigneur enseigne ainsi à ses disciples quelles sont les conditions dans lesquelles il se trouve à ce moment-là. Le Seigneur va leur être ôté, ils vont pleurer, mais ils vont se réjouir bientôt comme la femme qui a traversé souffrance a porté un homme dans le monde. Le Seigneur allait être ressuscité et le Saint-Esprit allait leur être donné. Quel sujet de joie! Donc, nous comprenons bien que la parabole est une allégorie que le Seigneur expose à ses disciples sans que le sens soit révélé à qui que ce soit en dehors d'eux. Alors nous pouvons dire un mot, essayer de dire un mot sur les raisons qui amènent le Seigneur à parler de cette manière, en parabole, à ses disciples. Quand nous ouvrons l'évangile selon Matthieu chapitre 13, il est bien clair que le Seigneur se trouve déjà rejeté. Les villes auxquelles il s'était adressé, dans lesquelles il avait accompli un grand nombre de miracles de grâce, Chorazin, Bethsaïda et d'autres, ne s'étaient pas repentis. Ils avaient donc rejeté celui qui venait comme le roi, comme le Messie, annoncé par les prophètes. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, et les villes qui avaient été si privilégiées et qui rejetaient la grâce qui leur était offerte. Plus encore, les pharisiens cherchaient à faire périr le Seigneur. C'est ce que nous trouvons dans les chapitres précédents. Les pharisiens, au verset 14 du chapitre 12, étant sortis, tinrent conseil contre lui pour le faire périr. Voilà donc l'état du peuple. Le Seigneur se trouve rejeté par le peuple, comme le Saint-Esprit le sera plus tard dans le livre des Actes. Dès lors, le Seigneur sépare ses disciples, un petit résidu, d'avec cette masse du peuple qui sombre dans l'incrédulité, dans l'opposition au Seigneur, et ce chemin va les conduire à demander la mort de Christ, la crucifixion du Seigneur. La masse du peuple est ainsi rejetée, il n'y a plus de communication possible entre le Seigneur et le peuple vers lequel il était envoyé. C'est ainsi qu'en ouvrant le chapitre 13, nous lisons que le Seigneur s'assied près de la mer étant sorti de la maison. Car dans la maison d'Israël, le péché est tel, l'opposition est telle qu'ils attribuent les miracles accomplis par le Seigneur en grâce, ils les attribuent à Béelzébul, le chef des démons. C'est un moment solennel et c'est un moment charnière dans l'évangile selon Matthieu. C'est à ce moment-là, après le rejet dont il est l'objet par les villes, par Israël dont nous avons parlé, par le fait que les pharisiens, hommes religieux à la tête du peuple, cherchent à le faire périr, et que ces miracles sont attribués à Béelzébul, le chef des démons, c'est alors que le Seigneur sort de la maison. C'est symbolique. Seigneur quitte donc la maison d'Israël, et il vient s'asseoir au bord de la mer, symbole des nations, auxquelles maintenant il va présenter la parole de Dieu. C'est ainsi que Paul expliquera dans l'Épître aux Romains, chapitre 9 à 11, notamment que le rejet du Seigneur par Israël est l'occasion pour Dieu de déployer ses plans de grâce envers les nations. Leur diminution sera la richesse des nations. Et je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère-ci, dit l'apôtre. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Donc, le péché de l'homme, c'est une chose merveilleuse, donne à Dieu l'occasion de manifester, lui, ce qu'il est en grâce. Et passant par-dessus les limites d'Israël, le Seigneur va s'adresser aux nations et leur présenter la parole de Dieu. C'est un nouveau travail, c'en est fini de la vigne et du figuier, image d'Israël, qui n'a porté aucun fruit. La fin de la mise à l'épreuve de l'homme est là, et le Seigneur va procéder tout autrement. Il ne va plus chercher du fruit dans la vigne, ni auprès du figuier, il n'en porte aucun. Il y a à cet égard un petit entrefilet dans notre introduction qui mérite d'être rappelé à ce propos. Et nous le lisons à la page 10 de notre introduction. Nous pensons qu'il vaut la peine, étant donné le sujet que nous abordons maintenant, de montrer comment une nouvelle économie commence, en quelque sorte, une nouvelle dispensation, une nouvelle administration de Dieu. Voici la note que nous invitons à lire, elle porte le petit chiffre 2 en bas de la page. Le rejet du Christ, et vous remarquerez que c'est une note très claire, mais d'une richesse et d'une densité extraordinaire. en quelques lignes, en quelques propositions, le cher traducteur nous place devant des faits d'une très grande importance. Le rejet du Christ, venu comme Messie promis, étant en même temps Dieu manifesté en chair, la fin des voies de Dieu envers son peuple était là. Donc la fin des voies de Dieu envers son peuple, et nous y reviendrons. Ainsi que la manifestation de la haine de l'homme contre Dieu, ces deux choses coïncidaient. Donc la mise de côté de ce peuple, la fin des voies de Dieu envers lui, et la manifestation de ce que l'homme est contre Dieu, alors qu'il jouit des privilèges des plus grands, ainsi qu'il en était en Israël, ces deux choses coïncidaient. La fin des voies de Dieu envers Israël et la manifestation du cœur de l'homme coïncidaient. Alors nous achevons. La déchéance d'Israël de tout droit aux promesses et la condamnation de l'homme dans son état de nature sur le principe de la responsabilité avait lieu simultanément. Il n'échappe à personne, chers amis, que c'est une note très importante et qui nous ouvre des horizons particuliers pour saisir précisément ces grandes pensées de Dieu. Nous avons encore un mot à dire sur l'importance de la parabole qui va nous occuper cet après-midi, parce qu'elle conditionne, si nous ne l'avons pas saisie, elle nous empêche de bien comprendre les autres. Elle conditionne en quelque sorte la compréhension, l'assimilation de toutes les autres. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, nous lisons un verset. À l'égard de cette parabole qui est devant nous maintenant, le Seigneur dit ceci dans le chapitre 4 de l'Évangile selon Marc. « À vous donc, au verset 11, il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, Israël est mis de côté, toute chose se traite par des paraboles. » Sans doute, moralement, Israël est mis de côté. La fin judiciaire d'Israël n'est pas encore là. Mais la base sur laquelle cette fin d'Israël judiciairement aura lieu, elle est déjà posée. Alors nous continuons dans Marc 4, ce que le Seigneur nous enseigne. Mais pour ceux, verset 11, qui sont dehors, toute chose se traite par des paraboles, etc. Et il leur dit au verset 13, « Ne connaissez-vous pas cette parabole du semeur ?» Elle a donc une grande importance. Ce n'est pas une similitude du royaume, bien que ce soit la parole du royaume. C'est-à-dire la parole qui nous enseigne ce que sont les droits de Christ dans ce royaume qui lui appartient, dont Dieu est le centre et la source quant aux bénédictions proposées. Et nous y entrons par la nouvelle naissance, on reviendra sur ces faits. Mais si ce n'est pas une similitude du royaume des cieux, c'est la parole du royaume, bonne nouvelle, que Dieu fait entendre à l'égard des bénédictions qu'il propose autour de Christ, le roi des rois, au centre de ce royaume qui a comme centre Dieu et la bénédiction qu'il veut répandre autour de lui. Par la nouvelle naissance, on entre dans la jouissance de ces bénédictions, par la nouvelle naissance selon l'enseignement de notre Seigneur Jésus à Nicodème en Jean chapitre 3. Alors nous terminons par ce que le Seigneur dit dans l'Évangile selon Marc en disant « Ne connaissez-vous pas cette parabole ?» Donc cette parabole du royaume, cette parabole du semeur, et comment connaîtrez-vous toutes les paraboles ? Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas saisi le sens de cette parabole, comment connaîtrez-vous les autres paraboles ? On peut conclure cette petite introduction en disant que la parabole du semeur, parole du royaume, est donc la manifestation d'un nouveau travail de Dieu. Comment il va s'opérer ? Quels sont les effets qu'il va produire ? Et ensuite, dans les similitudes du royaume des cieux, nous aurons la forme revêtue dans ce monde à la suite de cette prédication de la parole du royaume. C'est une vérité clé, elle n'est peut-être pas très facile à saisir, mais il faut faire un effort pour en comprendre le sens. La parabole du semeur est donc la parabole qui nous montre l'activité de Dieu en grâce après le rejet d'Israël envers tous les hommes, sortant de la maison, s'adressant au bord de la mer à toutes les nations sans distinction, Dieu ayant renfermé tous les hommes dans la désobéissance, mais en vue de faire miséricorde à tous. Cette parabole nous montre donc le moyen que Dieu emploie pour parler aux hommes et les introduire dans la bénédiction du royaume. Mais dans les 6 paraboles de Matthieu 13, similitudes du royaume des cieux, nous verrons quelles sont les manifestations, quels sont les résultats plutôt de cette prédication de la parole, la forme revêtue à la suite de ce qui a été prêché parmi tous ceux qui l'entendent. Et ainsi, nous arrivons à ce premier verset du chapitre 13 qui est devant nous, sans être exhaustif. Il est bien entendu que nous n'avons qu'abordé bien faiblement et bien imparfaitement le sujet, mais le Seigneur donc dit, puisqu'on demande qu'il veuille bien se rendre à l'invitation de sa mère et de ses frères qui le cherchent, le Seigneur dira, « Mais désormais, voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, à l'opposition d'un peuple dont le cœur est rebelle, génération méchante, tortue, perverse, qui le rejette, ma mère et mes frères, dit-il, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Il n'y a donc plus aucune relation entre le peuple d'Israël et le Seigneur comme étant son roi, le Messie que Dieu lui présente. C'en est fini de ces relations, et le Seigneur dit, voici ma mère, voici mes frères, ce sont ceux avec lesquels maintenant de nouveaux liens sont établis par le fait qu'ils ont reçu la parole de Dieu dans le cœur, autrement dit la vie et les fruits qui la manifestent.
Il faut donc bien comprendre, chers amis, ceci, ce que notre frère vient de souligner, soit en commençant, soit en terminant cette introduction, bien comprendre que le peuple d'Israël est rejeté par le Seigneur. L'évangile selon Jean, qui nous présente le Seigneur comme étant le Fils de Dieu, commence par dire que le Seigneur est venu chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. D'après les derniers versets de ce chapitre 12 de l'Évangile selon Matthieu, eh bien, le peuple d'Israël en effet est rejeté. Le Seigneur ne reconnaît plus ce peuple en tant que peuple. On vient de rappeler ce dernier verset, ces derniers versets du chapitre 12. On vient poser cette question au Seigneur, qui est ma mère, qui sont mes frères? Alors, étendant sa main vers ses disciples, remarquons ce geste auguste et bienveillant de la part du Seigneur, étendant sa main vers ses disciples, il dit, voici ma mère, vous voulez savoir qui est ma mère, vous voulez savoir qui sont mes frères? Ce n'est pas les enfants d'Israël, ce ne sont pas les enfants de mon peuple terrestre, mais quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma mère, et ma sœur, et comme notre frère vient de le dire, en effet, le Seigneur maintenant s'adresse à tout homme, quel qu'il soit. Elle est merveilleuse, cette parabole du semeur, de cette parole de Dieu qui est semée, qui est répandue. Elle est en faveur de tout homme, quel qu'il soit. Plus seulement les enfants d'un peuple privilégié, d'un peuple appelé et mis à part, comme l'étaient les enfants d'Israël. Non, ce peuple est rejeté et le Seigneur s'adresse à tous les hommes, de quelque nation qu'ils soient, celui qui est mon frère, ma sœur et ma mère, eh bien c'est celui qui va faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et le début du chapitre 13, cela a été aussi souligné, nous montre en effet que le Seigneur quitte cette maison, cette maison en fait vide, vide de Dieu lui-même, en tout cas où il n'y a aucun signe de la vie de Dieu, il quitte cette maison qui est la maison d'Israël. En ce jour-là, Jésus, étant sorti de la maison, s'assit alors près de la mer, un autre symbole. Si la maison est le symbole du peuple d'Israël, qui n'a pas reçu le Seigneur, la mer est le symbole des nations, des nombreuses nations qui peuplent cette terre dans leur agitation. Jésus s'assit près de la mer. Chers amis, nous ne voulons pas multiplier les citations de la parole de Dieu, mais en fait, ne vaut-il pas mieux s'attacher encore à ce que la parole de Dieu elle-même dit, plutôt qu'à l'expression de nos propres pensées. Que dit donc la parole ? Nous citons un exemple tiré des livres des quatre grands prophètes. On pourrait citer bien d'autres passages, mais cela pourrait être vain. Quels sont donc ces passages ? Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 17. Au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 17, nous lisons ceci. C'est un symbole, ce symbole de la mer, symbole des nations, qui est extrêmement clair. Ésaïe 17, verset 12. Malheur à la multitude de peuples nombreux, ils bruissent comme le bruit des mers, et au tumulte des peuplades, ils s'émeuvent en tumulte comme le tumulte de grosses eaux. Les peuplades s'émeuvent en tumulte comme les grandes eaux s'émeuvent en tumulte, mais Dieu les reprendra et fuiront au loin. Voilà donc un passage extrêmement clair qui nous montre véritablement que l'explication symbolique de ce concept de la mer n'est pas du tout une idée qui a émergé de certains cerveaux de frères plus qualifiés que d'autres. Absolument pas, c'est la parole de Dieu elle-même qui le dit, et une telle vérité nous a été transmise par les frères qualifiés par Dieu du siècle passé et du début de celui-ci. La multitude de peuples nombreux, il bruit comme le bruit des mers. Deuxième livre, le livre de Jérémie. Au livre de Jérémie, au chapitre 6e, au chapitre 6e, au verset 23e, au verset 22, ainsi dit l'Éternel, voici un peuple vient du pays du Nord, et une grande nation se réveille des extrémités de la terre. Ils saisissent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, ils n'ont pas de compassion. Leur voix bruit comme la mer, et ils sont montés sur des chevaux, préparés comme un homme pour la guerre contre toi, fille de Sion. Leur voix, la voix de peuples nombreux, bruit comme la mer. Troisième livre, le livre du prophète Ézéchiel, nous dit ceci au chapitre 26e. En Ézéchiel 26, nous lisons au verset 3e. Lisons depuis le premier verset. Il arriva à la 11e année, le premier jour du mois, que la parole de l'Éternel vint à moi, disant, fils d'homme, parce que Tyr a dit toujours, touchant Jérusalem, ah ah, elle est brisée, la porte des peuples. Elle est tournée vers moi, je serai rempli. Elle a été rendue déserte à cause de cela, ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Tyr, et je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Voilà donc un troisième passage, j'aime extrêmement clair, un enfant même le comprendrait. La mer symbolisant les nations dans leur agitation. Enfin, dans le livre de Daniel, que nos frères à pâturage ont médité en son temps, dans le livre de Daniel, les frères ont été retenus par les enseignements du chapitre 7e, Daniel 7, verset 2. Daniel prend la parole en présence du roi et dit, « Je voyais dans ma vision de nuit, et voici, les quatre vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer, et quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre, d'entre les nombreuses nations comparées à la mer, eh bien, sont nées ces différentes monarchies dont Dieu s'est servi et auxquelles, au fur et à mesure de leur existence, Dieu a confié son autorité, non plus à Israël, mais à des monarchies parfaitement bien déterminées. Sortant de la grande mer, des bêtes effrayantes, sortant d'entre les nations. Voilà, chers amis, quatre passages tirés des quatre grands prophètes, nous montrant la valeur d'un tel symbole, la mer représentant les nations. D'autres frères pourraient citer des passages dans le livre des Psaumes, par exemple, dans le Nouveau Testament, au livre de l'Apocalypse, certainement, nous ne multiplions pas les exemples. Voici donc le Seigneur abandonnant cette maison d'Israël pour se tourner vers la mer, vers les nations, vers les hommes, quels qu'ils soient, et c'est à eux qu'il va dorénavant faire entendre la parole de Dieu représentée par la semence, sujet de notre parabole. Il est donc dit que le Seigneur s'est rassemblé, donc s'est assis près de la mer, de grandes foules étaient rassemblées auprès de lui, de sorte que montant dans une nacelle, il s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles, disant, voici un semeur sorti pour semer. Comme notre frère l'a dit, cette première parabole du chapitre 13 est une parabole d'un enseignement général. Ce n'est pas précisément une parabole du royaume des cieux, quoiqu'elle ne soit pas sans liaison avec les paraboles du royaume des cieux que nous avons dans la suite du chapitre. Il y a six paraboles dans la suite du chapitre qui sont véritablement les paroles du royaume des cieux. Mais la première, la parabole du semeur, est quand même une parole du royaume. Le Seigneur Jésus dit dans l'interprétation qu'il donne de cette parabole, c'est quand même une parole du royaume, et en fait, par un tel enseignement de cette première parabole, le Seigneur va montrer véritablement qui sont ceux qui sont des sujets de ce royaume des cieux. Les caractères de ceux qui sont des sujets de ce royaume, c'est-à-dire ceux qui reçoivent la semence répandue, ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Il nous est donc dit, voici un semeur sorti pour semer. Notre Seigneur est sorti, chers amis. Il y a un jour où il est venu, où il est sorti, tout en demeurant ce qu'il est en lui-même, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il y a eu un jour où il est sorti du ciel, il est venu sur la terre, il est venu au milieu de son peuple, et puis il y a eu un autre jour où alors il est sorti de cette maison d'Israël, rejetant pour un temps une telle maison. Un semeur sorti pour semer, lisons-nous. En terminant cette adjonction à l'introduction tout à l'heure, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à divers passages, mais il y en a un que nous aimerions rappeler dans le sens de l'édification de nos âmes, comme la parole de Dieu nous l'a rappelé hier soir. Et c'est le passage du psaume 126. C'est un cantique des degrés. Nous lisons encore ce passage du psaume 126 où il est parlé de celui qui sème. Au psaume 126e, il nous est dit ceci. Dans les deux derniers versets du psaume 126, cantique des degrés, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Il est parlé de serviteurs, de servantes du Seigneur qui ont à cœur de répandre la parole. On sème, mais un tel travail n'est pas sans difficulté. Il y a des déceptions, il y a des occasions d'découragement, ceux qui sèment avec larmes. Mais voilà la promesse, alors l'encouragement divin qui est donné, ils moissonneront avec chant de joie. Et voici l'Esprit de Dieu en terminant ce psaume 126 qui veut diriger nos regards pas tant vers les semeurs, vers nos frères, nos sœurs qui ont à cœur de semer la parole de Dieu, de la répandre. L'Esprit de Dieu dirige notre regard vers un semeur, le semeur par excellence, celui dont Matthieu 13 parle. Le verset 6, il va, pas ils vont, il va. Au verset 5, il a été parlé de ceux qui pleurent, de ceux qui pleurent en répandant la parole de Dieu, parce que ce n'est pas un travail toujours facile. Il parle de quelqu'un, une personne, il va en pleurant, portant la semence qu'il répand, mais aussi il revient avec chant de joie, portant ses gerbes. Et c'est ainsi que le ministère divin de notre Seigneur a été marqué par des occasions nombreuses de tristesse, par des déceptions, par des larmes. Il va en pleurant, portant la semence qu'il répand. Il revient alors avec chant de joie, portant ses gerbes, ce qui sera vu un jour, soit vis-à-vis de l'Église, soit vis-à-vis du peuple d'Israël, selon les prophéties à cet égard. Donc, pour le moment, chers amis, nos regards soient dirigés vers une telle personne. Maison d'Israël, il a pris place au bord de la mer. Et il énonce la parabole du semeur. En ce jour-là, quel jour, chers amis? Le jour de la réjection du peuple d'Israël, mais aussi le jour où le Seigneur se tourne vers les nations représentées par la mer, vers quiconque, quelqu'un que ce soit. Maintenant, la parole de Dieu, elle n'est pas seulement pour un peuple mis à part, le peuple d'Israël, elle est pour quiconque, elle est pour quelqu'un que ce soit, pour tous les hommes, nous l'avons entendu. Voici un semeur sorti pour semer en ce jour-là, jour solennel, nous le répétons volontiers, le jour de la réjection du peuple d'Israël, mais aussi le jour où l'Évangile, la parole de Dieu, est annoncé à quelqu'un que ce soit, de quelque nation qu'il soit.
Encore dans le cadre de l'introduction, il est peut-être bon d'avoir une définition très, très simple, très courte, de ce qu'est le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux. La différence entre les deux expressions met l'accent d'une part sur celui qui règne, Dieu, le royaume de Dieu, et l'autre sur le lieu où elle s'exerce et d'où elle s'exerce, royaume des cieux. Les cieux dominent. C'est la sphère dans laquelle l'autorité de Dieu est reconnue. On voit que c'est donc une notion aussi large que possible, qui va d'ailleurs au-delà de celle de l'Église. L'Église, l'épouse de Christ, fait partie du royaume, puisque l'autorité du Seigneur est reconnue sur son Église. Mais le royaume, c'est plus que cela. Cela va, cela comprend toute la sphère dans laquelle l'autorité du Seigneur, même seulement extérieurement, est acceptée et est reconnue. L'évangile de Matthieu, c'est l'évangile du roi qui se présente dès le début avec ses droits, sa généalogie, son onction au baptême. Puis nous avons les lois du royaume, les chapitres 5 à 7. Et puis nous voyons le Seigneur s'introduit dans ce qui doit être son royaume terrestre, c'est-à-dire le royaume d'Israël, et puis comme on l'a remarqué, alors son rejet intervient ici au chapitre 12, et alors par cette manière symbolique de nous présenter les choses, le Seigneur va élargir la sphère de son autorité, comme pour nous dire « Je suis rejeté d'Israël qui aurait dû me recevoir et être le territoire, la sphère de mon royaume, eh bien, il s'élargit et il va comporter maintenant toutes les nations. » Et c'est ce que nous avons justement dans cette expression « Quiconque fera la volonté de mon Père », c'est donc bien une question d'autorité. Le roi, c'est la personne, vous savez bien dans votre pays, où vous avez un roi, c'est la personne qui exerce nominalement l'autorité. Et cette personne va étendre cette autorité, sans doute. Il sera rejeté aussi bien par les nations que par les juifs, comme la fin de l'évangile le montrera, mais l'évangile ne se termine pas sans que le Seigneur lui-même dise, et c'est une parole clé qui achève cet évangile du roi, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Cette autorité que les hommes lui ont refusée, Dieu la lui donne. Il l'aura enverrée contre tout, et cette autorité s'établira. » Et alors, dans cette forme figurée du chapitre 13, et puis il y a d'autres paraboles du royaume dans cet évangile, comme nous le verrons. Son autorité doit s'établir. Et sur quelle sphère et de quelle manière va-t-elle s'établir? Ça commence donc, on l'a entendu, par cette parabole du semeur, dont la clé nous est donnée par le Seigneur lui-même, qui interprète, qui traduit les termes symboliques qu'il a utilisé, les images qu'il a employées, et en particulier au verset 19, toutes les fois que quelqu'un entend la parole, on comprend donc bien qu'il s'agit là des terrains différents. Ces terrains sont des personnes, ces terrains sont des individus. C'est donc sur ces personnes que la parole doit agir. C'est cette parole qui est comme la cette parole implantée, cette vivante et permanente parole de Dieu dont parlera Pierre dans son épître. Et alors justement, la parole elle-même, c'est cela la semence, comme le passage de Pierre le rappelle. Voilà l'explication d'un autre symbole. Qu'est-ce que la semence? Nous avons vu ce qu'est le terrain, nous avons vu ce que signifie la semence, et tout à l'heure, le passage du psaume 126, qu'a cité notre frère, est là pour nous montrer aussi qui est le semeur. Alors nous avons ce qu'est le terrain, ce qu'est la semence, et qui est le semeur, le grand semeur, le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui sort, au moins le premier. Mais ensuite, il s'associe alors ceux qui entrent dans son travail. Et à ce sujet, il y a un précieux passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, dont nous lisons généralement avec tant de bénédiction la première partie, mais le paragraphe qui va du verset 31 et surtout à partir du verset 35 jusqu'au verset 38 est très instructif pour nous. Le Seigneur vient de parler à une personne. Il a jeté la semence et voilà un cœur qui a retenu cette semence. Un de ces cœurs honnête et bon, c'est-à-dire préparé par Dieu lui-même pour recevoir la semence. Et à partir de ce fruit de son travail, le grand semeur lève les yeux et voit déjà la moisson toute blanche. Avant que ce soit le moment, n'est-ce pas, levez vos yeux, dit-il à ses disciples, pour tirer la leçon de ce qui vient de se passer et les amener à considérer le moment où les greniers de Dieu seront remplis, où tous ceux qui sont le fruit de son travail les rempliront. Et alors il peut dire, regardez les campagnes, elles sont déjà blanches pour la moisson. Il parle ensuite des ouvriers, au pluriel, et nous avons vu aussi que dans le psaume 126, il y a des ouvriers avant de porter notre regard sur le grand semeur du verset 6. Ici, il nous dit au verset 37 du chapitre 4, « En ceci est vérifiée la vraie parole, l'un sème et un autre moissonne. » Et à la fin du verset 36, et c'est précieux de rapprocher avec le psaume 126, « Celui qui sème et celui qui moissonne pourront se réjouir ensemble. » Il y aura un fruit commun et qui sera partagé, dont on jouira ensemble. Et c'est comme si le Seigneur voulait aussi nous encourager, nous, parce que souvent nous nous disons, mais voyons, tant d'efforts déployés pour l'Évangile. On distribue des traités, on parle, on essaye de rendre notre témoignage dans la sphère où le Seigneur nous a placés, et puis voilà, si peu de fruits. Mais le Seigneur, à partir d'une seule âme, lève les yeux et le regard de la foi, parce que c'est ce regard-là que nous avons apporté sur ce que Dieu veut faire, envisage déjà le plein fruit et la joie de la moisson. Alors il peut dire, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouiront ensemble. Pour le moment, c'est le temps de semer. Ne comptons pas les fruits, ne nous attachons pas aux résultats, ne nous disons pas c'est si peu de choses. Il y a tant d'efforts déployés pour un résultat apparemment si petit. Mais non, prenons l'exemple du grand semeur qui déjà, à partir de cette femme samaritaine, cette simple femme ajoutée, amenée à lui, peut envisager la grande moisson et les greniers remplis pour la vie éternelle.
C'est merveilleux. Notre cher frère, M. André Gibert, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, insistait sur ce passage et exprimait là une pensée d'une très grande beauté lors d'une conférence en France. Et il nous disait ceci, il a tiré notre attention sur ce fait. Remarquez cette parole du Seigneur. Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches pour la moisson. Comment, chers amis? Les campagnes qui sont blanches pour la moisson, voici notre Seigneur qui vient sur cette terre. Dans ce chapitre 4 de l'Évangile selon Jean, pour la première fois, nous entendons parler du Seigneur comme étant le Seigneur. C'est comme cela que commence ce chapitre 4. Et voici notre Seigneur qui, dans toute son autorité, vient dire « Elles sont déjà blanches pour la moisson ». Et notre cher frère, dont nous citons le nom, nous disait « N'y a-t-il pas quelque chose d'infiniment beau en cela ?» Une âme est venue au Seigneur, c'est la Samaritaine. Elle l'a reconnu comme étant pas seulement le Messie, mais comme étant son Sauveur, plus encore le Sauveur du monde. Et en cette âme, cette seule âme qui en ce moment-là vient au Seigneur, le Seigneur peut parler des campagnes qui sont déjà blanches pour la moisson. Une âme est venue au Seigneur, et il est donné à notre Seigneur de voir, pas seulement une âme, mais des multitudes d'âmes, puisque il parle des campagnes qui sont déjà blanches pour la moisson. Et cela est très beau, certainement, que le Seigneur nous donne de nous souvenir d'une telle pensée, qui donne un tel éclat à cette déclaration du Seigneur, les campagnes sont déjà blanches pour la moisson. Et à ce moment-là, une âme est venue au Seigneur, la Samaritaine. À propos du royaume, nos frères ici à Jumet ont la pensée de parler de ce sujet d'une façon un peu plus détaillée, un peu plus tard. Mais disons ceci, puisque notre cher frère vient d'en parler, dans un but de simplification, est-ce que nous n'allons pas dire ceci, le royaume des cieux est un concept d'ordre dispensationnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, que le royaume des cieux représente ceci, un royaume dont le Seigneur est le roi, mais rejeté par la nation d'Israël, il est ce roi actuellement caché dans les cieux. Et déjà, dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel nous le montre, sauf erreur deux ou trois fois, nous montre cette domination qui vient du ciel. Il faut que ces grands monarques du monde, Nebuchadnezzar et les autres, sachent que les cieux dominent. Il y a déjà cette pensée du royaume des cieux. Dans le ciel, il y a quelqu'un qui domine, qui est un roi, c'est le Christ Jésus. Il est le roi caché dans le ciel. Le roi lui-même est caché dans le ciel. Le jour viendra où ce sera le royaume en puissance, et nous pensons au millénium, ou alors le roi sera là, présent sur la terre, ou en tout cas dans l'un de ses représentants, le prince, comme le livre du prophète Ézéchiel nous le dit. Le royaume en mystère actuellement, le roi est caché dans le ciel, bientôt ce sera le royaume en puissance, quand le Seigneur établira ce règne, le règne dit millénaire, le millénium. Quant au royaume de Dieu, c'est un concept d'ordre moral, et il nous semble qu'il nous faut retenir ceci, cela nous aide beaucoup à comprendre la différence entre royaume des cieux, dont seul l'évangile selon Matthieu nous parle, il faut le souligner ceci, c'est très très frappant, l'évangile dit dispensationnel, c'est-à-dire l'évangile selon Matthieu, est le seul évangile qui contient cette parole, ce concept de royaume des cieux. Alors, le royaume de Dieu est cette sphère où Dieu domine, en effet, où Dieu a toute autorité, tous les droits, mais ce royaume est vu sous son caractère moral, et il nous semble que le passage de Romains 14 est clair à cet égard pour nous montrer cette signification du royaume de Dieu. Au chapitre 14e, il nous est dit ceci, que, au verset 17e, Épître aux Romains, chapitre 14, verset 16, que le royaume de Dieu, verset 17, n'est pas manger et boire, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Et ceux qui sont les sujets d'un tel royaume, eh bien, ils réalisent ces différents caractères. Voilà pourquoi l'apôtre ajoute, celui qui en cela, en ces choses, justice, paix et joie dans l'Esprit Saint, sert le Christ, il est agréable à Dieu et il est approuvé des hommes. Mais nous répétons, il sera donné à d'autres frères de s'étendre quelque peu sur ces différents concepts certainement importants. Nous avons donc notre Seigneur présenté tel que le semeur, voici un semeur sorti pour semer, et il est ajouté que tout d'abord, et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Notre frère l'a dit tout à l'heure, ces différents terrains représentent en fait le cœur de l'homme. Il ne s'agit plus seulement de l'enfant d'Israël, dans son opposition vis-à-vis de Dieu, ne recevant pas le Seigneur Jésus, il est question du cœur de l'homme d'une façon générale, et il est comparé à un terrain. Un premier terrain, verset 4, « Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin », la pensée d'un chemin par où tout le monde passe, ce chemin qui est représenté par de la terre qui est dure, comme solidifiée. Voilà le cœur de l'homme, chers amis. Il n'est pas tendre, le cœur de l'homme, et surtout pas à l'égard de Dieu, et à l'égard de la parole de Dieu, il est dur. Et la semence ne pénètre pas dans ce cœur qui est dur, comparé ici à un chemin. Et qu'est-il arrivé alors? Quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. les oiseaux dans la parole de Dieu, surtout s'ils sont mentionnés au pluriel, ne représentent pas quelque chose de bien. Ils représentent bien souvent un principe de mal. Un seul passage nous le montre dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 5e, il nous est dit ceci, en Jérémie 5, au verset 27e. Jérémie 5, verset 27, « Comme une cage est pleine d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont pleines de fraudes. » Voilà aussi un passage extrêmement clair pour définir ce symbole des oiseaux. « Comme une cage est pleine d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont pleines de fraudes. » Les oiseaux sont très souvent dans la parole l'image d'un principe de mal. Eh bien voici, ces quelques grains sont tombés le long du chemin, ce qui représente la dureté du cœur de l'homme, et les oiseaux sont venus et ont dévoré les grains, pour ainsi dire, la semence répandue a disparu. Voilà l'accueil par le cœur de l'homme de la divine semence de la parole de Dieu. Le cœur de l'homme est dur et il faut toute l'action, toute l'activité du Saint-Esprit pour amollir, pour ainsi dire, ce cœur, pour que ce cœur, le cœur de quelqu'homme que ce soit, pour que ce cœur reçoive la semence répandue qui est la parole de Dieu.
Du fruit dans son peuple. Et il n'a pas trouvé de fruit. On a vu tout à l'heure comment il est rejeté par son peuple. Et maintenant, il va apporter dans le cœur de l'homme ce qui va produire du fruit. Il va semer dans le cœur quelque chose qui va venir de lui pour produire de fruits. Et quand on a parlé sur les différents terrains qui sont là, bien sûr, nous connaissons tous ces passages. Mais il est intéressant, peut-être, il est important de rappeler au début de ces réunions que cette parabole du semeur nous concerne aujourd'hui tout particulièrement. Il nous concerne chaque fois que nous lisons la parole de Dieu. Et nous sommes là nombreux aujourd'hui et nous entendons la parole et nous sommes réunis pour écouter la parole. Et tout à l'heure, on a lu l'explication « Toutes les fois que quelqu'un entend la parole ». Toutes les fois que quelqu'un, non toutes les fois que vous entendez, mais que quelqu'un entend la parole. Ça veut dire que cela s'adresse à moi personnellement et à chacun de nous personnellement. À la fin de Matthieu 12, on a vu ce que le Seigneur dit, quiconque, ça veut dire n'importe qui, ce n'est pas vous tous ensemble, quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là, et mon frère, et ma sœur, et ma mère. Celui-là, chacun de nous, personnellement, nous sommes concernés par cela. Et à la fin de ce paragraphe, le Seigneur va dire « Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ?» Ou, comme dit la note, « Plusieurs omettent pour entendre. » C'est-à-dire « Qui a des oreilles, qu'il entende ?» Alors, il y a ici pas mal d'enfants, des jeunes gens, des jeunes filles, et je poserai la question au début de ces réunions, est-ce que vous avez des oreilles? La réponse est oui. Alors, qui a des oreilles? Nous avons tous des oreilles. Que chacun de nous, nous sachions avoir nos oreilles ouvertes pour entendre et pour ensuite comprendre ce que l'Écriture nous dit. Parce que dans l'Évangile selon Matthieu, le sujet, vous savez que cette parabole du semeur nous est présentée dans Matthieu, Marc et Luc. Et dans l'Évangile selon Matthieu, ce qui nous est présenté comme point important pour nos cœurs, c'est le fait de comprendre. C'est ce qu'on a à la fin du verset 15, qu'ils ne comprennent du cœur, et au verset 23, celui qui entend et qui comprend. Ça veut dire qu'il faut que notre cœur aujourd'hui soit ouvert, comprendre du cœur, pour recevoir cette parole, pour ne pas l'oublier, pour la retenir. Alors nous allons peut-être aujourd'hui ressembler à ces différents terrains. Il y a peut-être ici quelqu'un qui est comme le chemin. C'est-à-dire, comme notre frère vient de le dire, le cœur de l'homme est dur. Un cœur qui est dur en surface entièrement dure. Quand il s'agit du cœur qui est comme la rocaille, il est peut-être en surface plus ou moins, il y a plus ou moins de terre, il est dur en profondeur, mais il est encore dur et il n'y aura pas de fruits. Et c'est un deuxième danger qui peut être le nôtre. Ou alors on peut avoir un cœur tout à fait encombré, et c'est ce que nous parlera les épines, on aura le temps d'en parler encore un peu plus tout à l'heure. Ou alors peut-être que nous sommes là, chacun de nous, avec un cœur prêt, un cœur qui est prêt à recevoir. Est-ce que nous sommes alors de celui qui veut ainsi écouter la parole de Dieu? Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Détail pour montrer, si la chose était encore nécessaire, la perfection de l'enseignement que nous avons dans les évangiles. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 8, on le sait, nous avons cette même parabole du semeur dont il vient d'être question, et dans Marc 4. Alors, on sait que l'évangile selon Matthieu, évidemment, s'adresse aux Juifs. Le commencement de l'évangile nous montre que Jésus est présenté comme le fils d'Abraham et le fils de David. Le Seigneur est donc là présenté au peuple d'Israël, et c'est dans cet évangile qu'on a le plus grand nombre de citations de l'Ancien Testament pour bien établir, pour étayer sans équivoque que Jésus qui est là en scène est bien le Messie que Dieu a promis depuis les temps anciens par les prophètes. Alors, dans l'évangile selon Luc, le sujet est tout différent, la sphère est différente, il s'agit des nations. Luc est un gentil qui écrit à un autre gentil pour lui parler de cette grande merveille de l'abaissement du Fils de Dieu qui vient naître dans une étable. Alors, nous lisons dans l'évangile selon Luc, au chapitre 8 et au verset 5, « Le semeur sorti pour semer ». Dans l'évangile selon Matthieu, « Un semeur sorti pour semer ». Les nations n'étaient pas en relation avec Dieu, tandis que les fils d'Israël, en relation avec Dieu, savaient bien ce qu'étaient les vérités relatives au royaume. On y reviendra, parce que c'est un sujet très vaste. Le royaume avait été promis à David et à Salomon son fils, type de Christ, et la bénédiction promise à Abraham prenait cette forme définitive donnée à David, en ce sens que Dieu allait lui donner une maison, allait donner à son fils le privilège de bâtir la maison de l'Éternel et en même temps l'établir sur son royaume. Les Juifs étaient donc bien au courant de cette grande vérité centrale, le royaume de Dieu. C'est pourquoi, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 4, la prédication du Seigneur qui parcourt toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue au milieu des Juifs, et guérissant tous ceux que, etc., il prêchait, lisons-nous, verset 23 du chapitre 4, l'évangile du royaume. Ce n'était pas du tout une chose étrange pour les Juifs. Mais pourquoi trouvons-nous ici le semeur? En fait, dans l'évangile selon Matthieu, c'est un semeur. Et ne pouvons-nous pas faire appel à une autre parabole dans laquelle le Seigneur montre que Dieu avait parlé à ce peuple par les prophètes depuis longtemps? Et le Seigneur montre l'accueil que ces prophètes avaient reçu. Les uns ont été lapidés, les autres ont été blessés, les autres ont été tués. Et enfin, Dieu dit, eh bien, ayant encore un unique fils, je vais le leur envoyer. Mais le Seigneur, dans l'évangile selon Matthieu, est celui qui termine cette chaîne de témoignages donnée par Dieu, par les prophètes, à travers tout l'Ancien Testament, pour arriver au Seigneur qui est un semeur après, sans doute le semeur par excellence, mais après tous ceux qui ont semé. Tandis que pour Luc, s'adressant à une sphère beaucoup plus large, celle des nations, ils ne sont pas au courant de tout ce qui a précédé. De sorte que pour eux, ce n'est pas un semeur qui suit beaucoup d'autres, mais c'est le semeur. Le seul semeur. Dans ce même chapitre 8, au verset 11, on voici ce qu'est la parabole. La semence est la parole de Dieu. Non pas la parole du royaume, comme nous l'avons dans l'évangile selon Matthieu, ce que nous venons de rappeler dans le chapitre 4, Seigneur prêchant l'évangile du royaume. Ici, l'évangile C'est la bonne nouvelle de l'activité du cœur de Dieu envers l'homme, où qu'il se trouve, quels que soient ses antécédents, la couleur de sa peau, et la semence, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, alors, encore un mot, on y reviendra beaucoup de fois, parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas épuiser en quelques propositions, mais remarquons que dans l'Évangile selon Matthieu, nous avons une trentaine de fois l'expression « royaume des cieux » que nous ne trouvons pas dans les autres Évangiles. Et nous n'avons que cinq fois la mention du royaume de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu. Cela rétrécit déjà le champ de nos recherches et nous permet de déjà saisir quelque chose de l'intention de l'Esprit de Dieu en employant le royaume des cieux. Que le royaume de Dieu soit d'ordre moral, nous l'avons dans ce même évangile selon Luc au chapitre 17, nous donnons encore ce détail, mais nous répétons qu'on y reviendra beaucoup de fois. Nous ne voulons pas anticiper, nous ne sommes pas encore à une parabole du royaume des cieux, mais retenons ce que le Seigneur dit dans l'évangile selon Luc au chapitre 17, ce sera déjà quelque chose, une pierre déjà dans cet édifice qu'on va essayer de construire. Au verset 21 de l'évangile selon, chapitre 17 de l'évangile selon Luc, voici, puisqu'il s'agit, comme le Seigneur dit, du royaume de Dieu, dans le verset 20, voici, il est ici, ou il est là, mais voici plutôt, non pas en cherchant pour le trouver quelque part, mais voici, dit-il, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il était là dans la personne du roi. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Tandis qu'on ne peut pas dire « le royaume des cieux est au milieu de vous ». Nous ne trouvons jamais cette expression. Le Seigneur dira dans l'Évangile selon Matthieu et Jean de la même manière, Matthieu 3, verset 2, « Repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché ». Mais le royaume de Dieu n'est pas encore institué, n'est pas encore établi. Le royaume des cieux n'existe pas encore. Le Seigneur dans ce même Évangile selon Matthieu chapitre 4, dira au verset 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Il n'était qu'approché. »
Les trois évangiles dans lesquels nous avons chaque fois la même parabole, nous sommes déjà reportés en Marc 4 et Luc 8, que le grand ennemi, celui qui est désigné dans la parabole par les oiseaux et que le Seigneur dénonce alors, fait connaître au verset 19 comme le méchant. Le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur et est désigné dans Marc 4 sous un autre nom, Satan, verset 15, et dans Luc 8, alors, c'est le diable. Comme pour ne rien nous cacher de l'identité de celui qui est l'ennemi des âmes et qui déploie tous ses efforts pour empêcher la semence de pénétrer. Alors, nous avons ces cœurs qui sont comme des chemins, c'est-à-dire piétinés par le monde. Et nous devons bien veiller, n'est-ce pas ? Comprenons que quand un cœur est martelé à force d'écouter, de se laisser marquer par les choses terrestres, par les manières de voir et de penser des hommes, et tout cela endurcit le cœur. Le monde est un lieu dur où les cœurs sont en effet piétinés. Eh bien, il y a la parole est pourtant à portée, à disposition, mais elle ne pénètre pas, parce qu'il y a déjà trop de choses dans ces cœurs. Et nous devons veiller bien, n'est-ce pas, et en particulier dans nos maisons, sur le cœur de nos enfants, pour ne pas les laisser se durcir à force d'écouter des choses qui peut-être ne sont, ou de voir des choses dans les maisons qui ne sont pas peut-être en elle-même de tellement mauvaises choses, mais qui ont cet effet d'endurcir le cœur, de le rendre imperméable à l'action de la parole. Elle n'a plus d'attrait, plus d'intérêt. Et alors, il y a derrière l'ennemi qui va enlever la semence, dès qu'il pourra le faire. Alors, Les Bibles sont fermées, ou elles sont bien là, peut-être, dans les maisons, mais on ne les ouvre plus. Le diable, Satan, le méchant, c'est l'être malfaisant qui aura réussi, tout simplement par une action endurcissante sur les cœurs, à empêcher que la semence ne pénètre. Nous devons voir cette parabole d'une manière très pratique. Et nous pouvons aussi peut-être la voir, pas seulement pour l'inconverti, comme on l'applique habituellement, mais la voir aussi pour des croyants. Hein, nous pouvons, comme croyants, avoir des cœurs blasés, qui sont tellement habitués à recevoir toutes sortes d'informations, de toutes sortes que la parole n'a plus de saveur, n'a plus d'appétit pour la parole. Nous cessons de la lire en famille parce qu'on regarde peut-être quelque chose. Nous n'avons plus ce goût pour la parole de Dieu. Le cœur est rendu dur et piétiné par les choses de ce monde. Veillons sur nos cœurs, nous n'avons rien de plus précieux que notre âme, et le Seigneur veut y faire pénétrer sa parole pour qu'elle ait toujours plus de prix pour nous.
Nous arrivons au terme de cette première réunion. Nos frères et jumelles ont demandé que la réunion se termine à 17h et qu'un premier terrain, ce terrain qui représente le cœur de l'homme, tellement dur. Ça ne fait pas de doute, chers amis, que quand on étudie une parabole semblable, il y a d'une part la pensée profonde de Dieu, et nous sommes appelés à considérer cela. Nos moyens sont fort petits, sont fort limités, mais les ressources de la grâce de Dieu sont là, et par son bon esprit, comme nous l'avons rappelé par le cantique, nous pénétrons ainsi dans la compréhension des choses profondes de Dieu, ces choses qui nous sont enseignées par des paraboles telles que celle-ci. D'un autre côté, ce serait une très grande lacune que de sous-estimer l'enseignement pratique que le Seigneur nous donne par de telles paraboles. Notre frère, du reste, tout à l'heure, a rappelé cette importance. En fait, pourquoi ? Quel est le but pratique de cette parabole ? C'est que la semence répandue produise du fruit. Or, nous sommes là, nous sommes laissés sur la terre pour produire quelques fruits, même beaucoup de fruits, à la gloire du Seigneur. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. D'une part, l'étude des pensées profondes de Dieu, d'autre part, la considération attentive des enseignements pratiques que nous avons dans de telles paraboles. Il est donc parlé d'un premier terrain, il en est parlé d'un deuxième au verset 5. On l'a dit, un sujet fort bien connu, mais il est permis de rappeler quand même ce que signifie ce deuxième terrain. D'autres tombèrent, verset 5, sur les endroits rocailleux où il n'y avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils levèrent parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde. Le soleil s'est levé, ils furent brûlés parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils séchèrent. Dans l'explication de la parabole un peu plus loin, nous avons l'enseignement même du Seigneur. Survient la tribulation, survient la chaleur de la persécution représentée par le soleil ardent. Voici que cette semence qui est tombée dans une façon très superficielle, le terrain était très très petit, très étroit, très mince. Alors aussitôt cette semence a séché. C'est donc le deuxième terrain, réception superficielle de la parole de Dieu, de telle sorte que arrive une épreuve, et une épreuve importante, la tribulation, la persécution, comme le Seigneur lui-même le dit, voici que cette semence, pour ainsi dire, disparaît. Et le Seigneur le dit, ils levèrent parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde, le soleil s'est enlevé, ils furent brûlés, il n'y avait pas de racines. C'était vraiment la réception très superficielle de la semence qu'est la parole de Dieu. Un troisième terrain, Des grains sont tombés entre les épines montèrent et les étouffèrent. Le Seigneur lui-même nous dit ce que sont ces épines. D'une part, les soucis de la vie qui ne sont pas nombreux, mais d'autre part, il y a aussi ce qui attire tellement notre cœur, la richesse. Nous ne sommes pas insensibles à la richesse. Nous sommes très sensibles à cela. Eh bien, l'amour des richesses est là. Et véritablement, la semence est étouffée. La semence ne peut pas se développer. Il n'y a donc pas de fruits produits. Et enfin, le quatrième terrain, le bon terrain, d'autres tombèrent sur une bonne terre et produisirent du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Nous aurons l'occasion de parler de ce sujet, de la bonne terre, des grains tombés dans la bonne terre et de la raison fondamentale pour laquelle la semence est répandue, c'est-à-dire pour que nous portions du fruit. Véritablement que celui qui a des oreilles pour entendre, et nous avons à cœur d'insister sur cet appel du Seigneur en présence de la nombreuse assistance ici, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit même âgé, puissions-nous prêter une oreille attentive à une telle parole. Le Seigneur ne parle pas pour rien, faut-il le dire respectueusement. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, c'est-à-dire qu'il reçoive la parole de Dieu et que cette parole soit là pour que nous soyons amenés à porter du fruit et même beaucoup de fruits.